Les tsars du ballon rond. Le quart d'heure des spécialistes.
Bienvenue dans le quart d'heure des spécialistes. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'élimination de l'équipe de Suisse, bien sûr, et les enseignements à tirer de ces huitièmes de finale de façon générale. Ce sera avec Gabé Chapuisat et on laisse le soin à Jérôme Moutet de nous dresser son portrait.
Gabé Chapuisat, de votre vrai prénom Pierre-Albert, et c'est là que l'on comprend que vous aimez mieux votre surnom. Vous êtes né à Lausanne le 5 avril 1948, une année bissextile commençant un jeudi. Vous avez eu 70 ans cette année, félicitations. Vous êtes né la même année qu'Alice Cooper, Richard Gottener ou Jean-Michel Jarre, des personnes de talent, mais que l'on aime ou pas, un peu comme vous. Vous êtes aussi né la même année que Charles de Gaulle, qui n'a rien à voir avec Charles de Gaulle, et heureusement pour vous, vous n'avez pas les mêmes oreilles, vous auriez couru beaucoup moins vite sur un terrain. Vous avez deux enfants, une fille Carole née en 1972 et un fils Stéphane, que l'on ne présente plus, né en 1969. En 67, alors que vous jouez à Lausanne, vous êtes le Mbappé de Suisse, car vous inscrivez à 19 ans un but contre le FC Sion en demi-finale de Coupe de Suisse. La finale se joue le 15 mai suivant contre le FC Bâle et le match est interrompu et perdu 3-0 par forfait, car les joueurs de Lausanne, dont vous, font la grève après une décision litigieuse de l'arbitre. Là déjà, on entrevoit votre forte tête. Mais en 1981, vous gagnez la finale de la Coupe de Suisse contre le FC Zurich. Après avoir joué à Lausanne, et on en parle peu, vous avez joué au Paris FC pour 34 matchs et 3 buts. Mais comme beaucoup dans le monde du foot helvétique, vous revenez souvent à la maison. Car si on prend votre parcours en entier, ça fait Lausanne, Paris, Lausanne, Zurich, Lausanne, Vevey et Renan. Vous êtes également 34 fois international pour 0 but marqué. Mais alors, quand on regarde votre parcours d'entraîneur, il est tout l'inverse d'un manager anglais, c'est-à-dire long comme le bras. Lausanne, Bulle, Montreux, Renan, Locarno, Winterthur, Renan, encore, Étoile Carouge, Épalinges, tiens, qu'est-ce que ça fait ça ? Yverdon, Chenois, Malais, Sion, oh non, encore une victime de Christian, Malais, Le Mans, Azzurri 90 Lausanne, Malais encore, Yverdon encore, Forward Morge, tiens ça je croyais que c'était du hockey, et enfin le FC Bursin Rôle Perrois. Alors après avoir entraîné le FC Sion et joué au Paris FC, se retrouver à entraîner le FC Bursin Rôle Perrois, eh bien, c'est un peu comme si le chef Cyril Lignac nous servait au McDo. Alors, évidemment, quand on parle de la carrière de Gabé Chapuisat, on ne peut pas s'empêcher de revenir sur l'affaire Lucien Favre. Mais nous, Gabé, sur BNJ FM, on est bien au-dessus de cela. Et franchement, non seulement il y a prescription, non seulement vous avez dû vous emmerder à répondre à l'époque à tous les cons qui voulaient votre tête, mais surtout, quand on regarde la carrière fantastique d'entraîneur de Lulu Favre, on ne peut pas s'empêcher de se demander si, quelque part, ce n'est pas grâce à vous. Gabé Chapuisat, on se souviendra de vous comme étant un joueur de caractère, dur sur l'homme, parfois à la limite, voire au-delà, mais toujours pour l'amour du maillot. On se souviendra de vous comme étant un entraîneur assez aléatoire qui n'a jamais vraiment pu percer en haut niveau, car pour être entraîneur aujourd'hui, il faut être plus psychologue que technicien. Mais on se souviendra surtout de vous comme étant un joueur travailleur à forte gueule, qui ne laissait personne indifférent, dont on parle encore aujourd'hui, et par qui est arrivé Stéphane Chapuisat, un des plus grands attaquants de l'histoire de notre pays. Alors pour tout cela, Gabé, on vous dit bravo et merci.
Voilà pour votre portrait façon Jérôme Moutet. Votre réaction, Gabé Chapuisat?
Oui. Oh, sympa. Il n'a pas tout dit, mais il n'y a surtout pas de mensonge. C'est vrai qu'il y a eu... ma liste était très longue. C'est vrai qu'on y rendait... J'ai pas mal entraîné de club et tout ça. Il a demandé ce que je faisais dans certains endroits. Mais enfin, bref, c'était des circonstances qui ont voulu qu'on connaisse les trajectoires de la carrière d'un entraîneur. C'est très aléatoire. Et voilà. Non, il n'y a rien à regretter. C'est magnifique.
Voilà, Gabé Chapuisat, vous êtes essentiellement là pour parler de l'équipe de Suisse. Déjà, on a envie de vous demander comment est-ce que vous avez vécu cette défaite face à la Suède hier.
En direct, avec quelques soucis, je savais que ça serait épineux, difficile, parce que c'est une équipe qui n'est pas facile à jouer, qui n'est certainement pas la plus talentueuse, mais qui a créé des problèmes à tout le monde. Ils ont fini deuxième du groupe derrière la Hollande et ils ont éliminé l'Italie. Je pense que ça fait assez de remous. On en a surtout beaucoup parlé. Et puis, c'est une équipe solide défensivement. C'est des gérants. Ils font en gérant au niveau athlétique. Hein, c'est des gens qui font tous 1m90 et tout. Je savais que ça serait ardu. Malheureusement, ça s'est confirmé.
Est-ce que vous partagez les nombreuses critiques du jour qui soulignent que la Suisse, par exemple, n'en a tout simplement pas fait assez dans ce match ?
On n'a surtout pas trouvé les solutions. Voilà, je pense qu'on a tous rêvé. Je pense que la Suisse, en finissant deuxième derrière le Brésil avec une bonne mi-temps contre peut-être les futurs champions du monde, a fait le boulot, même très bien, on peut le dire, dans l'ensemble. Normalement, on aurait dû tirer l'Allemagne, donc c'est vrai que là, on s'est mis à rêver de la possibilité de faire un quart de finale. un rêve qui nous échappe depuis, des lustres. Et là, l'occasion était idéale, mais on a très, très, très mal entamé le match, comme tous les matchs de la Coupe du Monde. Mais surtout, on n'a jamais trouvé des solutions pour mettre en difficulté ces Suédois qui ne sont pas des génies, mais qui sont, comme on dit, athlétiques et solides.
C'est donc dans la créativité, peut-être, qu'il fallait en faire plus, principalement, Gabé Chapuisat ?
Oui, on a joué tout faux, dans le sens, on savait que les Suédois allaient nous laisser la possession du ballon. Je crois que c'était à 34 à 36%. Le problème, c'est que face à ces gens, ces géants, il aura fallu mettre de la vitesse dans le jeu, de la créativité, en faisant tourner le ballon au sol, en essayant de passer sur les côtés. Et là, on n'a jamais vraiment trouvé de solution. Je crois qu'on s'est créé une occasion, une vraie, je crois que c'était à la 38e minute par Zemaghi, mais disons, c'est vrai que c'est un bilan bien maigre pour espérer passer en quart de finale.
Alors quand la Suisse a été dangereuse, vous l'avez dit, hein, cette occasion notamment de Zuber, ça a été par un jeu au sol, un jeu rapide, posé. On s'est entêté finalement à jouer des centres, à obtenir des corners, les taper dans la boîte. Est-ce que finalement il n'y a pas une erreur quelque part de coaching aussi ou de consigne quand on voit ce qu'on a produit notamment en deuxième mi-temps ?
Oui, mais tout à fait. Bon, le problème va passer sur les côtés. Je trouve bon Rodriguez qui a fait quand même une assez bonne deuxième mi-temps, a été souvent très actif, mais les vrais centres qui ont pu mettre la défense suédoise en difficulté ne sont jamais arrivés. Et du côté droit, Thomas Shaqiri, il est toujours rentré sur son pied gauche et il a balancé des centres qui a fait le régal des grands Suédois. Et surtout que malheureusement, Lang a été totalement absent sur le plan offensif. Donc les solutions étaient là. Et en plus, il faut dire aussi que l'axe central offensivement, n'a pas apporté ce qu'on a été en droit d'attendre. Bérami s'est contenté. Bon, lui, il ne peut plus. Hein. On sait très bien que quand il fait un match, il lui faut une semaine pour récupérer. Là, il était un petit peu sur les genoux. Il a joué à la hauteur de la défense avec des ballons à Libye. Xhaka, il a passé totalement à côté du match. Bon, on dit toujours que c'est un type formidable. C'est lui qui touche le plus souvent le ballon et tout. Mais il n'a fait que des passes latérales ou plutôt jouer derrière. Il n'a jamais été capable de mettre un ballon digne de ce nom pour nos attaquants. Et Zemaili, il a passé à côté du match, on n'a pas vu à part l'occasion. Donc ça fait beaucoup de lacunes. Je pense qu'il y avait trop de joueurs qui n'étaient pas à leur niveau.
Gabé Chapuisat, si on veut maintenant dresser un bilan global, la Suisse qui arrive en 8e de finale d'une Coupe du Monde en sortant la Serbie et le Costa Rica, on aurait presque signé en début de jeu de mondial. Vous tirez quand même un bilan positif?
Oui, non, je crois qu'on était tous contents, surtout qu'on a fait de très bonnes figures contre, surtout en deuxième temps, parce qu'on a toujours connu des débuts de match très difficiles contre le Brésil, où sincèrement, quand on a pris le goal après 20 minutes, je m'attendais au pire, et puis contre la Serbie, le match qu'il fallait gagner, l'équipe a fait une formidable deuxième mi-temps pour c'était le match qui nous a qualifiés contre Costa Rica, il suffisait d'un match nul, l'équipe suisse allait montrer quelques légèretés, quelques faiblesse à quelques soucis défensifs, mais dans l'ensemble, deuxième derrière le Brésil, oui, c'était chapeau. Moi, je l'avais prévu. Bon, je pensais, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça serait contre l'Allemagne, vu que c'était contre la Suède. Bon, je pense que là, vraiment, on avait une chance inespérée de passer. Comme je dis, je suis convaincu que c'est Scandinave, c'est pas les plus talentueux de ces quarts finales.
Toujours d'une façon globale, hein, sur les quatre matchs disputés par l'équipe de Suisse, qui sont les révélations côté helvétique d'après vous ?
Bon, il n'y a pas eu de révélation, il y a eu des confirmations. Disons, le meilleur d'entre eux était certainement le gardien Sommer. J'étais très content et très surpris de la qualité de sa performance parce qu'il sort d'une saison très compliquée avec Michel Gabart. Il y avait beaucoup de points d'interrogation. Je crois qu'il nous a vite rassurés. Non, lui, il était parfait. C'était le meilleur Suisse. Il y a eu une confirmation quand même s'il était très malheureux lors du goal suédois quand même d'Akanji qui, dans l'ensemble, avec sa jeunesse et son peu d'expérience, a été impeccable et tout. Pour le reste, je pense et je crois que nos lacunes, on les connaît, c'est offensivement, même si Shaqiri nous a montré quelques facettes de son talent, je pense que le produit et le contenu offensif étaient vraiment insuffisants pour espérer aller plus loin.
Alors la Suisse devra vite se relever, hein, notamment la Ligue des Nations qui commence déjà début septembre. Par la suite, il y aura bien sûr les qualifications pour l'Euro. Qu'est-ce qu'il faut garder d'après vous et au contraire ne pas garder de cette expérience en Russie ?
Ben, je crois que c'est la fin d'un cycle pour certains joueurs. Et je crois et j'espère que Petkovic, qui était en lui, il était très très sympa. Il est parti avec un groupe, il était jusqu'au bout. Je trouve que peut-être, par exemple, je prends hier, moi j'aurais sincèrement, je pense qu'il s'est trompé. Il aurait fallu commencer avec Mbolo, qui a de la percussion, de la puissance. Et lui aurait été un type qui aurait pu un petit peu secouer et mettre en difficulté cette défense suédoise. Voilà, donc il faut tourner une page, je crois, même si certains veulent continuer, mais je crois qu'il faut, à travers cette Coupe des Nations, là je ne sais pas comment elle s'appelle exactement, il faudra préparer déjà les phases éliminatoires pour l'Euro. Là, je pense que c'est la fin aussi. Donc, je pense qu'il faudra tourner la page avec Berami, Lichtsteiner, Zaymaili. Je pense que là, voilà. Et je pense qu'on a quand même de la qualité derrière. Je pense à Emilston Fernandez, comme j'ai dit tout à l'heure, Zakaria, Yass. Djibril Sow et tout ça, il y a Freuler et tout. Je pense que derrière, on a tous les éléments pour repartir d'un bon pied.
Gabé Chapuisat, on va aussi revenir un bref instant sur le match d'hier soir, cette fois, et la victoire de l'Angleterre au tir au but contre la Colombie. Vous sentez que ça peut être cette année la bonne pour les Anglais ?
Bon, déjà, ils ont vaincu le signe indien, hein, parce qu'en principe, ils se faisaient toujours éliminer au pénalty. Je crois qu'ils avaient un taux de réussite absolument incroyablement faible. Non, je suis content pour eux. C'est une équipe que je trouve intéressante. Ils ont un système de jeu bien en place. Ils ont des éléments quand même de qualité, même si en Angleterre, on parle plutôt des étrangers, parce que hein, on voit souvent des équipes comme Manchester, les Manchester ou Chelsea, qui jouent avec des fois 11 étrangers, où il y a peu de place pour les Anglais. Et là, je trouve qu'avec la base de Tottenham et plus l'apport de certains, cette équipe a beaucoup de fraîcheur. Elle me plaît beaucoup et je suis très content qu'elle ait pu passer le cap des Colombiens. Ils ont eu la poisse, comme on dit, de se faire égaliser à la 93e. C'était compliqué. Mais je pense qu'ils ont le bon tableau et là, on pourrait très bien les retrouver en demi-finale contre la Croatie.
Le grand doute, voire même le gros point faible de l'Angleterre ces dernières années, ça a été le gardien de but. Or, pour le moment, on peut dire que Jordan Pickford tient la baraque et rassure son monde. C'est un point, peut-être le point le plus positif pour l'Angleterre.
Oui, c'est un souci anglais. Ils ont eu la chance à l'époque d'avoir des Banks, des Shilton et tout, mais ça fait quelques années qu'ils courent après la qualité d'un excellent dernier rempart. On sait que c'est très important. Du reste, on peut voir dans le championnat anglais, les trois quarts des gardiens viennent de l'étranger. Et ce Pickford a une jeune révélation qui joue à Everton pour sa première saison. Et hier, il était à la hauteur. Ben, tant mieux. Je crois qu'ils vont surtout pas s'en plaindre.
On a parlé de l'Angleterre qui va donc jouer la Suède en quart de finale. Dès vendredi, il y a deux chocs. Hein. Ce sont les chocs principaux des quarts de finale. France-Uruguay, Brésil-Belgique. Parmi ces quatre équipes, qui est-ce que vous voyez les mieux armés pour rallier le dernier carré ?
Ouais, ça va être très serré. Je donnerais... bon, tout le monde pense que la France est favorite, sincèrement, mais attention à l'Uruguay. L'Uruguay, c'est une petite nation. Je rappelle, je crois qu'il y a à peine 6 millions d'habitants en Uruguay, mais c'est du solide défensivement. Ils ont la base d'Atlético Madrid, donc on connaît la qualité. Et c'est très solide. Et puis devant, ben, tout dépendra, je pense, pour les Français de la présence ou non de Cavani, qui malheureusement pour lui s'est blessé, je crois, dans le dernier quart d'heure contre le Portugal. Donc la France a une grande chance, mais si Cavani est présent et qui surtout s'il est à 100%, la France risque de connaître beaucoup de difficultés. Donc moi, je verrais bien en Uruguay, Brésil en demi-finale, mais je pense que c'est dommage pour les Belges, parce que les Belges ont un immense potentiel offensif. Ils sont venus de nulle part en étant menés 2-0 par le Japon, mais c'est un grand potentiel. Je suis étonné que ça dure si longtemps. En principe, dans les grands rendez-vous entre les Wallons et les Flamands, ça finit toujours assez mal. Là, ça a l'air d'aller. Je leur ferais peut-être juste un petit reproche. Je pense qu'ils ont voulu absolument gagner, même qu'ils avaient mis 9 remplaçants contre l'Angleterre. Je pense qu'il aurait été mieux de finir deuxième que premier. Mais enfin, s'ils veulent être champions du monde, ben, ils vont battre le Brésil. Je pense qu'ils en ont le potentiel, même si je fais du Brésil mon favori.
Gabé Chapuisat, on arrive à la fin de ce quart d'heure des spécialistes. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission et excellente soirée.
C'est un plaisir. Merci, pareillement.
Les tsars du ballon rond. Le quart d'heure des spécialistes.